Donc, on termine la Christologie. Et on ne peut pas vraiment parler de Christologie sans parler aussi de la parousie, c'est-à-dire du retour de Jésus. Jésus a promis qu'il reviendrait. Nous en avons parlé la dernière fois quand nous avons évoqué l'ascension. Et les anges qui ont parlé aux disciples leur ont promis que ce même Jésus qu'ils avaient vu s'en aller montant au ciel reviendrait de la même manière. Le livre de l'Apocalypse nous dit « Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. » Le retour de Jésus ou la parousie est indissociable de la messianité de Jésus. Le Messie, nous l'avons vu, c'est un roi. Le roi oint. Et en tant que roi, il règne sur l'univers entier comme lieutenant de Dieu. Et s'il est vrai que depuis son ascension, ainsi que nous l'avons vu, Jésus règne de juré, il ne règne pas encore de facto. C'est-à-dire qu'il règne de droit, mais de fait, sa royauté n'est pas encore pleinement manifestée. Et ce faisant, les Juifs ont beau jeu de nier la messianité de Jésus à partir de l'argument que Jésus n'a pas accompli jusqu'à présent les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, lesquelles prophéties évoquent le rassemblement d'Israël dans son pays, le fait que toutes les nations puissent alors se tourner vers le Dieu d'Israël, que les conditions matérielles, physiques et autres de la terre soient transformées, etc. Et le Messie est indissociable de la vision messianique, c'est-à-dire de la manifestation du salut de Dieu au dernier jour. Cette manifestation, elle a deux aspects. Elle a un aspect spirituel et elle a un aspect temporel. Ça veut dire qu'elle a un aspect qui concerne le salut intérieur et aussi ce qui concerne le salut extérieur. Elle a un aspect ensuite universaliste, c'est-à-dire que cela intéresse l'univers entier, et un aspect nationaliste, ça veut dire que ça concerne essentiellement le peuple juif. Et Jésus a accompli la première partie de ce programme lors de sa première venue. Le salut spirituel a été accompli, mais le salut, on dirais-je, temporel, n'a pas encore été manifesté. Et par conséquent, il faut une deuxième intervention du Seigneur dans l'histoire pour que la deuxième partie de ce programme soit respectée. Et c'est pourquoi le retour de Jésus, la parousie, c'est-à-dire littéralement son apparition, est évoqué 380 fois dans le Nouveau Testament et 527 fois dans l'Ancien. Quand on pense par exemple qu'une doctrine comme le baptême n'est évoquée que 19 fois, on se rend compte de la place centrale que la parousie occupe dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle on peut s'étonner du peu de place que cette doctrine occupe dans la préoccupation, dans la prédication et dans la vie de l'Église d'une manière générale. En fait, Si l'on considère le nombre des allusions qui sont faites à cette doctrine, on peut dire que cette doctrine est quasiment la première du Nouveau Testament. Encore une fois, c'est souligner son importance. Et on constate que dans l'éventail des doctrines de la foi chrétienne, c'est celle qui est pratiquement reléguée au dernier plan. On peut même aller plus loin et dire que les églises mondanisées haïssent tout simplement cette doctrine. Il est vrai qu'elle a donné lieu à, peut-on dire, des excès divers ordres. Et lorsque l'on évoque la parousie, la doctrine de la parousie, constamment revient le fameux problème de l'an 1000 et des terreurs de l'an 1000 qui ont amené toutes sortes de désordres et de débordements dans l'Europe entière. Encore qu'il semble bien que ces terreurs de l'an 1000 aient été très exagérées et que les choses n'ont pas du tout pris la proportion que l'on dit qu'elles ont prise en fait. Mais il est facile de montrer que quelle que soit l'importance des terreurs de l'an 1000, ces dernières reposaient sur une doctrine erronée. Et cette doctrine, c'était l'amillénarisme. Ainsi que nous allons avoir l'occasion de voir, il s'agit là d'une fausse doctrine en ce qui concerne le retour de Jésus. Par contre, il y a eu, et c'est la deuxième objection que l'on fait, des sectes millénaristes qui, elles aussi, ont terminé dans des débordements. La plus célèbre d'entre elles étant la secte de Münster, qui avait abouti à la prise de cette ville par des anabaptistes, des groupes d'anabaptistes, qui affirmaient que le millénium était arrivé et qui avaient entrepris à partir de cette ville, après avoir massacré tous ceux qui n'étaient pas des leurs, d'y créer une ville idéale. Finalement, ça s'était terminé dans le scandale moral. Et les troupes d'un des princes allemands de la région étaient venus détruire tout ça et massacrer tous les anabaptistes, et l'affaire s'était terminée dans un bain de sang. De temps en temps, il y a des poussées millénaristes qui surgissent ça et là, notamment à la fin du siècle, au milieu du siècle dernier aux États-Unis. Une fièvre millénariste qui a donné naissance à la secte des Adventistes. La secte des Mormons reposait aussi d'une certaine manière sur une espèce de poussée millénariste, etc. Néanmoins, ce n'est pas... Bon, bien sûr, plus près de nous, il y a des témoins de Jéhovah, qui sont d'ailleurs issus des Adventistes, qui aussi font régulièrement leur fortune en prédisant la date du retour de Jésus. Il semble que depuis quelques années, ils aient quelque peu renoncé à cette tentative-là, certainement un petit peu échaudés par leurs échecs répétés, mais en son temps, ils n'hésitaient pas à donner des dates précises. En tout cas, ce n'est pas parce que des sectes diverses ont erré à partir d'une doctrine que cette dernière est obligatoirement fausse et qu'elle est à rejeter ou du moins à mettre sous le boisseau. En réalité, nous constatons dans l'histoire de l'Église que cette dernière a vécu les premières décennies de son histoire dans une attente ardente du retour du Seigneur. Déjà, le Nouveau Testament, les épîtres de Paul montrent combien était vive cette attente et même Paul est obligé parfois de un petit peu freiner l'enthousiasme et l'ardeur d'un certain nombre de ces chrétiens, notamment à Thessalonique, qui voyaient ce retour de Jésus comme totalement imminent, qui avaient cessé de travailler, etc. On voit, par exemple, dans des écrits comme ceux d'un homme, dans la Didaché, par exemple, dans les pasteurs d'Hermas, les premiers écrits apostoliques au début du IIe siècle, que cette Cette attente était ardente. Par exemple, il y a dans la Didaché un texte où la manière de célébrer la Sainte Cène est décrite. Et l'officiant, le président de la Sainte Cène, celui qui préside la Sainte Cène, est invité à dire, eh bien, de même que les épis qui étaient autrefois dispersés sur les collines et que les grappes qui étaient autrefois dispersées sur les collines sont maintenant rassemblées sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, tout ton peuple soit bientôt rassemblé dans ton royaume de toutes les extrémités de la terre. Justin Martyr écrivait qu'il s'attendait à ce que bientôt tous les saints, c'est-à-dire les enfants de Dieu véritables, se trouvent rassemblés dans la Jérusalem, Jérusalem terrestre, avec les saints de l'ancienne alliance, Abraham, Isaac et tous ceux dont il est question dans l'Ancien Testament, pour y régner avec le Seigneur pendant 1000 ans, et que les Juifs incrédules auraient été chassés de cette cité. Quel que soit le caractère discutable de cette dernière affirmation, en tout cas, un homme comme Justin Martyr croyait donc à la parousie prochaine et au retour de Jésus. C'est évident. Et il semble que, au IIe siècle, à la fin du IIe siècle, puis surtout au IIIe siècle, il y a eu une certaine désillusion qui se soit introduite dans l'Église, et que le fait que Jésus ne revenait pas aussi vite qu'on l'avait pensé a amené les leaders de l'Église à se dire que, somme toute, il valait mieux envisager la durée, installer l'Église dans la durée, plutôt que de la garder dans une attente de la parousie. Et c'est cette évolution qui, au IVe siècle, a conduit au constantinisme, l'Église qui a fait alliance avec l'Empire, et à partir du moment où cette alliance a été accomplie, l'espérance du retour du Seigneur a été reléguée à l'arrière-plan. Il n'était pas souhaitable que le Seigneur revienne trop vite, de façon à ce que l'Église ait le temps d'asseoir son règne, son royaume, grâce à cette alliance qu'elle avait accomplie avec l'Empire. Quelque temps plus tard, la boucle était bouclée avec Augustin, lequel a réinterprété l'Apocalypse dans ce domaine, disant que le millénium n'était pas à attendre dans un futur à venir, mais que le millénium était venu à partir du moment où il y avait eu cet accord entre l'Église et l'État. Que depuis la conversion de Constantin, on était donc entré dans le millénium, et que, eh bien, il y allait y avoir un règne de l'Église, un règne terrestre du Christ par l'intermédiaire de l'Église, par l'Église interposée, lequel règne allait durer 1000 ans. Et c'est pourquoi, à la fin de ce premier millénaire, justement, il y a eu ces fameuses terreurs de l'an 1000, car au bout du millénium, c'était la fin du monde. C'était le jugement dernier. C'était le ciel nouveau et la nouvelle terre. Et par conséquent, on s'attendait à des bouleversements terribles qui devaient amener la destruction de la terre, la fin du monde au sens propre du terme. Et c'est pourquoi, dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, des membres des églises historiques, la parousie se confond avec la fin du monde. Parousie et fin du monde sont une seule et même chose. On ne fait pas la différence entre les deux choses. En réalité, ce sont deux événements bien différents. C'est ce que nous allons voir. Donc, cette période prend fin au bout du premier millénaire de l'Église, puis évidemment, au bout de ce premier millénaire, on s'aperçoit que rien ne se passe. Le monde continue comme avant, on se dit « tiens, on s'est trompé ». Il faut donc réviser à nouveau la doctrine. Et la doctrine, c'est celle-ci, c'est que le millénium, c'est effectivement cette période du règne terrestre de l'Église, mais les 1000 ans sont à prendre au sens symbolique, c'est-à-dire un temps très long. Ouf, en même temps on respire, ça veut dire on a tout le temps devant nous. Et le Seigneur, eh bien, c'est pas demain la veille qu'il revienne. C'est ça que ça signifie. Et la parousie devient un des articles du credo, parlant de Jésus, il est dit, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Point final. Et pour beaucoup de gens, la parousie, ça se borne à ça. Et puisqu'il viendra de là pour juger les vivants et les morts, on n'est pas tellement pressé qu'il revienne. Le plus tard sera le mieux. Plus tard on aura affaire au jugement, le mieux on se portera. Et c'est dans cela que la doctrine du retour du Seigneur est quasiment caricaturée et défigurée dans la plupart des églises historiques. Ce sont les églises évangéliques qui ont redécouvert la doctrine du retour du Seigneur, notamment à partir du XVIIe siècle, quand on s'est mis à étudier les prophéties. Et puis, plus près de nous, c'est Darby, John Nelson Darby, qui a élaboré le premier système cohérent, la première doctrine cohérente du retour de Jésus. La doctrine de Darby, dite doctrine dispensationaliste, n'est pas dépourvue de mérite, et le mérite essentiel qui est le sien, c'est d'avoir réaffirmé effectivement que Jésus revient, mais elle a aussi ses limites, ainsi que nous allons le voir. Néanmoins, ce retour de Jésus, cette parousie, d'abord, avant d'en définir les modalités, il faut définir sa réalité. Jésus revient-il et comment ? Pour beaucoup de gens, ce n'est pas évident. Pour beaucoup de chrétiens, les églises historiques en particulier. Et à ce niveau-là, il y a eu de nombreuses tentatives d'explication qui ont été données pour dire, en quelque sorte, qu'il ne fallait pas s'attendre à un retour corporel de Jésus. Et il y a une doctrine un peu étrange, plutôt une explication un peu étrange, qui dit que le retour de Jésus, c'est la mort. La mort, quand vient la mort pour chacun d'entre nous, à notre heure, c'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui revient pour celui qui meurt, pour le chrétien, bien sûr. Bon, c'est déjà pas tellement encourageant, moi. Même si la mort, évidemment, est une ennemie vaincue. Mais on se rend bien compte qu'ici, cette doctrine-là ne peut pas du tout cadrer avec les textes. Ce Jésus que vous avez vu s'élever au ciel reviendra de la même manière. Ben, la mort ne vient pas tout à fait comme Jésus est parti. Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra. Quand la mort vient, tout le monde ne le voit pas. Tout le monde ne voit pas Jésus venir. Celui qui meurt, peut-être voit Jésus venir, mais tous les autres, non. Deuxièmement, il est question de la venue de Jésus au son de la trompette, au son de la voix de l'archange. Bon, quand la mort vient, c'est pas tellement au son de la trompette, ni au son de la voix de l'archange. Ensuite, la venue de Jésus précède la résurrection. Donc automatiquement, c'est une contradiction. Celui qui meurt, par définition, il ne ressuscite pas. On ne peut pas à la fois vivre une chose et son contraire. La mort n'est pas la résurrection, ou alors je ne sais pas ce que c'est que la résurrection. Ensuite, Paul nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Donc la mort est une ennemie. Et la mort doit être vaincue. Par conséquent, il n'est pas possible de constater ou d'affirmer que lorsque un chrétien meurt, c'est la parousie pour lui. Deuxième doctrine erronée, la parousie, le retour de Jésus, c'est la venue du Saint-Esprit. Jésus a dit « Je m'en vais, mais je reviendrai, et je vous enverrai un autre consolateur. » Par conséquent, quand un homme se tourne vers Jésus dans la foi et que le Saint-Esprit vient habiter son cœur, c'est la parousie pour lui. Mais là aussi, on voit tout de suite que cette doctrine, pour séduisante qu'elle soit, ne peut pas cadrer du tout avec les textes. Jésus dit qu'il envoie effectivement le Saint-Esprit, mais comme un substitut pendant le temps de son absence. Et que son absence a pour but, nous lisons ça dans Jean 14, de préparer pour les siens une place, afin de revenir les prendre avec lui pour que là où il est, il soit aussi. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre cœur, nous ne sommes pas là où est Jésus. C'est bien évident. D'autre part, nous pourrions reprendre du Saint-Esprit ce que nous disions pour la mort. Le Saint-Esprit ne vient pas au son de la trompette ni de l'archange. Le Saint-Esprit ne vient pas sur les nuées du ciel en sorte que toutes les tribus de la terre le voient et se lamentent à cause de lui. Par conséquent, la parousie est véritablement autre chose. Il y a une unanimité dans les premiers siècles de l'Église, nous l'avons vu, pour attendre un retour corporel de Jésus. Comment s'accomplira ce retour de Jésus? Eh bien, la Bible nous le montre en deux temps. Paul nous dit, il reviendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Et Jésus lui-même donne quelques indications sur la manière dont se fera son retour. Il dit comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, ils ne s'y attendront pas, comme un voleur dans la nuit. Donc, la surprise. La surprise, et on pourrait dire la discrétion. Deuxièmement, il vient même pour ressusciter ceux qui ont cru en lui. Et tous les écrits du Nouveau Testament, comme ceux de l'Ancien Testament, font allusion d'une résurrection en deux temps. Paul, devant Agrippa, affirme que il y aura une résurrection des justes et des injustes, ainsi que l'affirment les prophètes. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, il y a deux étapes de cette résurrection des justes et des injustes. Dans le livre de Daniel, dans le chapitre 12, l'ange qui parle avec Daniel lui déclare que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, plusieurs, on peut traduire aussi par un grand nombre, de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Et après, les autres se réveilleront pour le jugement. Et c'est ce texte de Daniel, en particulier ce verset de Daniel, qui est dans la tradition juive, à l'époque de Jésus et avant déjà, a permis de définir l'idée qu'il y a une résurrection d'entre les morts. Pas de tous les morts, mais d'entre les morts. Et cette expression, nous la retrouvons à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, notamment sous la plume de Paul. Une résurrection d'entre les morts. Et Paul lui-même déclare dans l'Épître aux Philippiens, donc il a renoncé à tout, afin de pouvoir arriver, dit-il, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et cette résurrection d'entre les morts est un privilège qui est donné aux justes. Seuls les justes auront part à cette résurrection d'entre les morts. Et le but de cette résurrection d'entre les morts sera de briller, comme le dit l'ange à Daniel, comme le soleil, quand il est dans sa force. Et dans un deuxième temps, il y aura la résurrection de tous les morts pour le jugement. Et ça, nous trouvons dans Daniel aussi, n'est-ce pas ? Dans la vision messianique, chapitre 7, la fameuse vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel pour exercer le jugement sur les bêtes en particulier, les empires humains qui se sont succédés sur la surface de la terre. Et c'est à partir de cela que la tradition juive a considéré que la venue du Messie donnerait le signal de cette résurrection d'entre les morts, d'abord. Et qu'une des raisons d'être de la venue en gloire du Messie, venue en gloire qui est décrite selon la vision de Daniel, chapitre 7, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, qui vient sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire, comme dira Jésus, ou encore, selon l'interprétation du psaume 110, dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, le Messie comparé à Melchizedek, qui est assis sur son trône, selon ce que nous lisons dans Daniel 7, et qui exerce la royauté, jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Donc, il anéantit les ennemis de Dieu par sa venue. Et notamment, il anéantit la puissance de la mort. Et on trouve ça aussi dans Ésaïe 24. Le Seigneur prépare pour tous les peuples, sur une haute montagne, un festin, etc. Et sur cette montagne, il anéantit la mort pour toujours. Il essuie les larmes de tous les yeux. Par conséquent, la venue du Messie, la parousie, est directement liée à la résurrection. La première venue de Jésus n'échappe pas à cette loi. La venue de Jésus est liée à la première victoire et la victoire décisive sur la mort, en ce sens que Jésus est le premier-né d'entre les morts, dira l'apôtre Paul. Mais lors de sa venue aura lieu la résurrection d'entre les morts. L'Apocalypse reprend cette pensée quand il parle de la première résurrection. Et Jean voit les âmes des martyrs, de ceux qui ont été décapités à cause du Messie. Ils revinrent à la vie quand ? Au moment où le Seigneur apparaît. Et c'est alors que a lieu la première résurrection. Et Jean ajoute, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux et ils régneront avec le Messie pendant 1000 ans. » Donc, c'est bien de cette résurrection d'entre les morts qu'on trouve dans la tradition juive, qu'on trouve à Qumran et qu'on trouve dans les autres écrits du Nouveau Testament qu'il s'agit là. Et puis après, au bout du règne messianique, a lieu la résurrection de tous les morts, mais cette fois-ci pour le jugement. Donc, première chose, le Messie revient pour ressusciter les morts. Avant, que se passe-t-il? Il y a un autre problème. C'est que quand le Messie viendra, tous les justes ne sont pas morts. Il y en aura qui sont vivants à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer pour cela? C'était la question que les Corinthiens posaient à Paul. Et si par hasard on est vivant, nous, quand le Messie viendra, qu'est-ce qui va nous arriver? Paul dit, vous inquiétez pas. Quand cet événement se produira, les morts, dit-il, en Christ, les morts bienheureux ressusciteront premièrement, mais les vivants qui seront restés pour l'apparition du Seigneur seront transformés. En un instant, littéralement le grec dit dans un atome de temps, et ensemble, vivants transformés et morts ressuscités seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Par conséquent, il y a ici une rencontre dans les airs, à mi-chemin, si j'ose dire, entre le ciel et la terre. D'un côté, il y a le Seigneur qui descend, et de l'autre, il y a les justes qui montent automatiquement. Quelque part au milieu, il y a rencontre. Donc le Seigneur revient pour prendre les siens. Et de nombreux textes montrent le caractère aussi tout à fait étonnant de cet événement, d'où la nécessité de la vigilance. Et Jésus dit, ce jour-là, cette nuit-là, de deux hommes qui seront à travailler ensemble, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée, etc. Et en même temps, nous retrouvons ici cette idée que nous évoquions hier du rassemblement des élus dans le royaume céleste. Il rassemblera ses élus des quatre coins de la terre dans son royaume. Après avoir envoyé ses anges, avec une trompette retentissante. Autre pensée forte aussi que nous trouvons en relation avec la parousie, c'est l'idée du jugement. Donc, résurrection des morts, des justes, et puis aussi jugement des nations. Et là, je vous renvoie à Daniel 7, la vision du Fils de l'homme, les morts ressuscitent, mais en même temps, des trônes sont placés et le Fils de l'homme reçoit le pouvoir de juger les nations. Et le retour de Jésus dans le Nouveau Testament reprend cette idée d'un jugement eschatologique des nations. Nous voyons cela aussi, par exemple, dans Joël, livre de Joël, n'est-ce pas ? Où il est question du rassemblement des nations. Dans la vallée de Josaphat, ça veut dire justement la vallée du jugement, bon, que la tradition juive ultérieure a assimilé avec la vallée du Cédron. Pourquoi il y a sur les pentes des deux côtés, sur le mont des Oliviers et sur le mont du Temple, tous les cimetières qui sont là? Parce qu'on peut être là, à l'endroit où va se produire l'événement, au moment de la résurrection. En tout cas, que ce soit là ou que ce soit ailleurs, la Bible ne nous le dit pas de manière explicite, il y a donc un jugement des nations. Et ce jugement des nations, nous le retrouvons aussi dans le Nouveau Testament. Matthieu 25 en particulier. Quand le Fils de l'homme, c'est un des textes qui est le plus mal compris celui-là, quand le Fils de l'homme viendra avec tous ses anges dans sa gloire, il rassemblera toutes les nations autour de lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger le fait il sépare les brebis et les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, il dira aux uns, venez, bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu boire, et aux autres, il dira, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Je dis que c'est un des textes qui est le plus mal compris, parce que c'est un petit peu le cheval de bataille aujourd'hui de toute la nouvelle théologie, c'est la vision horizontale. Dieu est dans l'autre, Dieu c'est l'autre. Et on parle de cette parole de Jésus, chaque fois que vous avez fait ou vous n'avez pas fait ces choses aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites ou que vous ne les avez pas faites. Donc, Dieu est dans l'autre. D'ailleurs, c'est un sabellianisme assez poussé au point de vue doctrinal, hein, parce que là, on n'est pas dans une vision tout à fait trinitaire, n'est-ce pas ? Il y a une sacrée confusion entre Jésus et Dieu, mais enfin, passons. Donc, Dieu est dans l'autre. Je découvre Dieu, non pas au ciel, mais dans l'autre. Par conséquent, dans le prolétaire, le misérable, le etc. Bon. Il y a un peu de vrai, mais on pousse ça à l'extrême. Et par conséquent, on revient ici exactement à l'idée du salut par les œuvres. C'est le jugement de tout homme qui dépend, qui est ici défini, y compris des chrétiens. Donc on a intérêt à aider au maximum de faire le plus d'œuvres sociales possible pour pouvoir être sûr d'entrer dans le royaume, dans le ciel. Or là, il nous faut reprendre absolument Daniel 7. C'est Daniel 7 qui nous donne la compréhension, la clé de compréhension de ce texte. Jésus manifestement ici commentait Daniel 7, la vision du Fils de l'homme. Or, la vision du Fils de l'homme, nous avons vu, il y a deux choses. Il y a le sort des justes, et le sort des justes, il est tout à fait différent. Le sort des justes, c'est la résurrection. Et pas question de jugement pour les justes. Et à plusieurs reprises, Jésus dira cela. Celui qui croit en moi, eh bien, il est passé de la mort à la vie, il ne vient pas en jugement. Il n'y a pas de jugement, dit Paul, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si jugement il y a, et il y a, c'est un jugement d'un autre ordre, comme le montre l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est un jugement pour des récompenses, mais pas pour déterminer qui est sauvé ou qui est perdu. C'est déjà fait. C'est déjà fait par le choix que ces justes ont fait quand ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Et par l'autrement, c'est nier complètement le salut par grâce. Alors, qui ce jugement concerne-t-il ? Encore une fois, Daniel 7 nous le montre. Les nations. Les païens. Nations et païens, c'est le même mot en hébreu et en grec aussi. Les païens, par définition, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus. C'est ceux-là qui sont rassemblés devant le trône du Fils de l'homme et qui vont être jugés pour entrer, non pas dans le ciel, dans le royaume messianique. Ça veut dire dans le millénium. Et quel va être le critère du jugement ? Justement, ce que Jésus définit. Leur attitude vis-à-vis de ceux qu'il appelle les plus petits de ses frères, dans lesquels, c'est vrai, on peut voir par extension tout homme, mais d'abord, c'est quelque chose de très précis. Ses frères, c'est d'abord ses disciples. C'est ses disciples qui étaient en prison. C'est ses disciples qui étaient qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient nus. Et puis aussi son peuple, le peuple d'Israël, persécuté, dispersé. Et enfin, si on veut, par extension, je ne suis pas contre, tout homme qui souffre. Donc ici, c'est quelque chose de tout à fait différent. Nous ne sommes pas ici au jugement dernier. C'est le jugement préliminaire avant d'entrer dans le royaume messianique ou pas. Et puis, le jugement des nations implique aussi une autre réalité, toujours Daniel 7. c'est le jugement des bêtes, et notamment de la bête, la quatrième bête, la plus terrible, celle qui avait lutté contre Dieu et contre son Messie. Et un des buts essentiels du jugement du Fils de l'homme, c'est le jugement de cette fameuse bête. Et dans le livre de l'Apocalypse, cette bête, cette quatrième bête de Daniel, est assimilée avec l'Antichrist et avec son royaume. Et l'Apocalypse nous donne beaucoup plus de détails que n'en fait Daniel sur cette quatrième bête. Elle a deux aspects. Elle a un aspect politique et un aspect spirituel, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Mais le résultat est le même. Le résultat, c'est que c'est la fin du royaume de l'Antichrist. Et Paul nous dit cela dans la deuxième aux Thessaloniciens, quand il nous parle de l'avènement du Seigneur. Il dit « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus anéantira du souffle de sa bouche » et c'est une allusion ça à Ésaïe 11 « De sa bouche, du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant, il fera périr l'impie » et l'impie c'est donc l'Antichrist « et qu'il anéantira par l'éclat de son apparition, par l'éclat de son avènement » dit l'apôtre Paul. C'est donc la parousie qui mettra fin au royaume du méchant, avec l'idée qu'on trouve déjà en tradition juive, qu'avant la venue du Messie, le royaume du méchant, qui est donc sous la domination du prince de ce monde, de Satan, arrivera au paroxysme de sa méchanceté. Dans le temps de la fin, comme l'a dit le prophète Malachie, la différence entre le juste et le méchant apparaîtra nettement. Ça veut dire que le méchant deviendra de plus en plus méchant et le juste deviendra de plus en plus juste. On trouve ça en Apocalypse aussi. Que celui qui est saint se sanctifie encore et que celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire qu'il y a consommation des deux mystères, le mystère du mal, le mystère de l'iniquité, dont parle aussi l'apôtre Paul, l'épître aux Thessaloniciens, mystère de l'iniquité qui est en germe et qui arrive dans sa plénitude, à son apogée, au moment de la venue du Messie, et puis le mystère de Dieu, le mystère des élus de Dieu, qui aussi arrive à leur plénitude à cette même époque-là. Et par conséquent, la parousie met fin à ce royaume du méchant. Et c'est un début de la parousie. Comme disent les justes quand ils prient dans l'Apocalypse, il s'agit de détruire ceux qui détruisent la terre et d'arracher tous les scandales et tous ceux qui sont les fauteurs de troubles et d'iniquité. Jésus a donné aussi une autre parabole pour illustrer cela. C'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Quand il montre que le bon grain et l'ivraie poussent ensemble dans le même champ. Et que pendant tout un temps, si longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à maturité, on ne peut pas les arracher. On ne peut pas arracher l'ivraie parce qu'on risquerait d'arracher le bon grain parce qu'on ne peut pas faire la différence. Le blé en herbe ressemble à l'ivraie en herbe. Et Jésus explique par là pourquoi il ne peut pas intervenir avant que les deux mystères soient arrivés à maturité. Mais quand il y aura cette maturité, alors à ce moment-là, il y aura le grand tri. Et dans l'Apocalypse, nous retrouvons cela. « Lance la faucille, dit l'ange au Messie, car la moisson de la terre est mûre. » Et la terre fut moissonnée. C'est-à-dire que tous ceux qui commettent les scandales sont éliminés, sont arrachés, car il n'y aura pas dans le royaume messianique de fauteurs de troubles. Et le Messie des psaumes, est celui qui élimine du pays les méchants. C'est en cela qu'il est le roi juste. Et par conséquent, au moment où le Messie inaugure son règne messianique, il élimine les méchants. Il élimine les méchants qui n'ont pas voulu se repentir, et c'est le but du jugement, le jugement dernier, le jugement de Matthieu 25 a ce but. Ensuite, il établit son règne. Et son règne implique d'abord une restauration de l'ordre de la création. Il faut reprendre Ésaïe 11. Le loup habitera avec l'agneau, enfin vous connaissez bien ce texte. Il faut reprendre aussi Romains 8, où Paul déclare que la création tout entière attend avec des soupirs inexprimables la manifestation des fils de Dieu. Parce que cette nature espère aussi être affranchie de la vanité à laquelle elle a été soumise à cause du péché des hommes. Et par conséquent, la restauration du royaume messianique, l'élimination des méchants, entraîne une modification de la création de la nature. Les animaux féroces perdent leur férocité. Il y a vraisemblablement aussi une modification du cycle des saisons, je ne sais, des végétaux, etc. Il y a une restauration de la nature et finalement tous les problèmes de pollution. La seule solution à ces problèmes de pollution, sans vouloir faire du jeu de mots, c'est la parousie, c'est le retour du Seigneur. La seule solution est celle-là. Et c'est alors que commence le règne messianique. Ce que Darby avait appelé le millénium. Darby avait eu le mérite, en effet, de voir essentiellement ces différents points. Peut-être pas d'une manière aussi structurée que ce que nous avons fait ce soir, mais il en avait compris l'essentiel. Donc, un règne millénaire, un règne de 1000 ans terrestre, sur cette terre-ci, sur une terre qui est renouvelée, qui est transformée, qui finalement est fort différente de la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais un règne qui a lieu sur cette terre-ci. Depuis Jérusalem, qui est redevenu le centre du monde. Depuis le peuple d'Israël, qui est rassemblé dans son pays pour sa mission eschatologique, qui est de faire connaître le Seigneur, le nom du Seigneur, au monde entier. Car l'univers sera rempli de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par l'eau qui la couvre, dit le prophète. Et de nombreux textes prophétiques montrent dans les derniers temps la centralité de Jérusalem et le pèlerinage eschatologique des nations à Jérusalem au temps de la fin. Ésaïe 2, Michée 4. Il arrivera à la fin des temps que la montagne, la maison du temple de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes et tous les peuples y afflueront. Ils diront, montons à la temple de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies, qu'il nous enseigne ses statuts, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Sera l'arbitre des nations nombreuses, de leur lance ils forgeront des hoyaux et de leurs épées des serpes, une nation ne tira plus l'épée contre une autre et n'en apprendra plus la guerre. Donc c'est la fin de toute guerre entre les nations qui vont chercher à connaître Dieu. Et pour cela, elles viennent à Jérusalem, vers le peuple qui va leur enseigner les choses de Dieu. Zacharie 14, toutes les nations qui resteront à la fin, après que l'Éternel aura accompli ses jugements, monteront tous les ans à Jérusalem pour y chercher l'Éternel et y célébrer la fête des tabernacles. Il n'y aura plus de temple à Jérusalem, parce que toute la ville sera un temple. Et la ville sera un sanctuaire. Même les clochettes des chevaux porteront sainteté à l'Éternel, ce qu'il y avait sur les, vous savez, sur les objets qui étaient consacrés au temple, au service du temple, comme la petite grenade qu'on vient de retrouver actuellement. Saint pour les prêtres, c'est marqué, sainteté à l'Éternel. Même les clochettes des chevaux porteront cette inscription, à cette époque-là, nous dit le prophète Zacharie. Et puis de Sion sortira la Torah. Il y aura des missionnaires qui iront vers toutes les nations de la terre. Et c'est pourquoi Israël a été dispersé parmi toutes les nations. Les Juifs de France iront évangéliser les Français. Les Juifs russes iront évangéliser les Russes, etc., etc. Et puis ensuite, ce temps sera un temps où les conditions de vie seront transformées. Ça ne veut pas dire que la mort aura disparu. Mais la durée de la vie humaine sera considérablement allongée, certainement comme c'était avant le déluge, presque un millier d'années. Car le prophète nous dit que celui qui mourra à 100 ans mourra jeune, sera considéré comme mourant jeune. C'est-à-dire que ce sera une anomalie. Ce sera une anomalie, comment ? Parce qu'il y aura un jugement de Dieu. Satan sera lié, il n'y aura plus de tentateur, mais éventuellement il y aura des hommes méchants. Car le règne millénaire sera un règne autoritaire. Il pètera les nations avec une verge de fer. Il les brisera comme on brise un vase de potier, dit le psaume 2. Ça veut dire que les récalcitrants seront mis au pas. Seront mis au pas sans douceur. Et ceux qui s'obstineront dans leur rébellion seront éliminés. Et c'est ainsi qu'on voit qu'on n'est pas encore à la fin. Le règne messianique est un règne transitoire. Le règne messianique, ou le millénium, ou encore le royaume de Dieu, c'est un règne transitoire. Et déjà, la tradition juive avait reconnu cela. La tradition juive fait la différence, si vous lisez le Talmud, c'est très clair, entre les Yimei HaMashiach, les jours du Messie, et puis Haolam Haba, le monde qui vient. Une différence, on appelle Haolam Hazé, ce monde-ci, c'est-à-dire le monde actuel, et Haolam Haba, le monde qui vient. Bon, les traducteurs du Nouveau Testament, les apôtres, quand ils ont écrit pour les Goyim, pour les païens qui ne connaissaient pas ces expressions-là, les ont transcrites. Yimei HaMashiach, ils ont traduit ça, ou que Jésus l'a fait déjà, par royaume de Dieu. Et là, à l'époque de Jésus, on employait cette expression aussi. Et puis, Haolam Haba, ils ont traduit ça par la vie éternelle. Mais c'est exactement la même chose. La vie éternelle, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de l'histoire, qui est au-delà de cet univers-ci, et qui est le terme de l'histoire. Ce que l'Apocalypse appelle le ciel nouveau et la nouvelle terre. Mais entre les deux, il y a le règne messianique. Et les rabbins n'étaient pas d'accord exactement, discutaient pour savoir combien de temps durait le règne messianique. Alors ça allait de 40 ans à 7000 ans à peu près, selon les opinions diverses des rabbins. Mais l'opinion la plus répandue, c'était que le règne messianique durait 1000 ans. Par conséquent, ici, c'est tout à fait cohérent avec le livre de l'Apocalypse. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les amillénaristes qui nient la réalité du règne millénaire de Christ ignorent la tradition juive et par conséquent n'ont pas la clé pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Et au bout des 1000 ans, nous dit le livre de l'Apocalypse, Satan est relâché pour un peu de temps. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement, parce que pendant le règne millénaire, les hommes continueront bien sûr à vivre la vie normale, bien que tout à fait différente de celle qu'on vit actuellement. Il y aura une foule de gens qui naîtront pendant le millénium. Vous allez me dire cela, dommage que moi je ne sois pas né sous le millénium. Parce que ceux qui vont naître pendant le millénium, ils vont être drôlement avantagés. Ils ne sauront pas ce que c'est que la souffrance, ils ne sauront pas ce que c'est que la tentation, ils ne sauront pas ce que c'est les conditions difficiles. Bah, dites donc, drôlement bien, hein. Ils sont sur des rails. Et surtout, ils ne savent pas ce que c'est que la tentation. Eh bien, justement, il faut qu'eux aussi, ils puissent savoir ce que c'est que la tentation avant d'entrer dans le monde qui vient, dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour que ces gens-là ne soient pas avantagés par rapport à ceux qui sont nés avant eux que Satan est relâché au bout des 1000 ans. Et là, se produit quelque chose de tout à fait étonnant. Ces gens qui ont vécu dans les conditions paradisiaques, qui ont vécu dans les conditions, finalement, dans lesquelles tout homme rêverait de vivre. Quand Satan est relâché, la majorité d'entre eux se révoltent à nouveau contre Dieu. Là, les bras en tombent. Mais c'est comment c'est possible? Et en même temps, ici, ça montre la justice de Dieu. C'est la justification de la manière de se conduire de Dieu. Quand il a dit « Tout homme est jugé à cause du péché d'Adam ». Ah, on me dit « Mais ça, c'est quand même pas possible. » Parce que moi, si j'avais été à la place d'Adam, c'est pas certain que moi, je me serais révolté comme Adam avait fait. Alors, c'est pas normal que moi, je subisse les conséquences du péché d'Adam. Eh bien, la réponse de Dieu, elle est là. Les hommes qui ont vécu dans les conditions où était Adam, parce que les 1000 ans, ce sera le paradis terrestre, ce sera l'Éden. Eh bien, ces hommes qui se retrouvent dans les conditions où était Adam et qui se trouvent confrontés à la tentation avec laquelle Adam s'est confronté, suivent le même chemin que lui. Donc Dieu est parfaitement juste quand il juge les hommes à cause du péché d'Adam. Parce que ce péché d'Adam est leur péché, et ils l'assument, la preuve en est. Et c'est pourquoi s'il n'y a pas de millénium, et il n'y a pas non plus de manifestation de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi ici, nous avons réellement une doctrine fondamentale. Et aujourd'hui, la négation du millénium qu'on trouve de plus en plus dans les milieux évangéliques est quelque chose d'extrêmement grave. Or, de plus en plus, on nie le millénium. Il y a eu pendant tout un temps le dispensationalisme et Darby, effectivement, malgré tout le mérite qu'il faut reconnaître à son système, avait un peu trop systématisé les choses. Il était juste, il ne faisait pas un calendrier, pas des événements de la fin, ça a duré 7 ans, il va y avoir d'abord ci, il va y avoir d'abord ça, une alliance avec Israël pendant 3 ans et demi, puis au bout des 3 ans et demi, enfin, rupture, l'Antéchrist apparaîtra, il rompra son alliance avec Israël, enfin, il y avait tout. Alors, il y a des chartes, vous savez, comme ça, c'est vrai, c'est pas sérieux. Et encore aujourd'hui, dans certains milieux évangéliques, on discute à perte de vue, et encore ces derniers temps, vous savez, sur la reconstruction du temple de Jérusalem, il faut que le temple soit reconstruit pour que l'Antichrist puisse s'installer dedans, etc. Alors, il y en avait qui avaient été jusqu'à vouloir faire sauter les mosquées pour permettre aux Juifs de reconstruire le temple pour que l'Antichrist puisse venir. Enfin, vous voyez le genre, quoi. C'est du véritable zélotisme. Alors, à cause de ça, on dit, oh, dans les milieux évangéliques, on dit, oh, ça va trop loin, nous, on ne suit plus. Et on rejette tout. On rejette, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. En réalité, bien sûr, nous ne pouvons pas accepter le dispensationalisme de Darby, parce qu'il est trop étroit. Ce dispensationalisme, si vous voulez en avoir un exemple, vous prenez les écrits de Pache, par exemple. Le retour de Jésus de Pache est tout à fait reprend le schéma darbiste traditionnel. Mais quand on lit le millénium, ça va extrêmement loin. Car, ou bien alors, on est post-millénariste. Ça veut dire qu'on croit que Jésus revient après le millénium, et encore une fois, nous sommes dans le millénium à ce moment-là, et on reprend la thèse qui est celle d'Augustin, et qui est celle aujourd'hui de l'Église catholique, en gros, grosso modo. Si vous prenez la Bible de Jérusalem, par exemple, les notes sur le millénium en Apocalypse exposent en gros cette doctrine. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans le millénium, le temps de l'Église, c'est le temps du millénium. Pensez, les papes ont toujours rêvé régner pour le compte du Christ. Alors évidemment, cette doctrine, ça leur plaît. Hein. Mais nombreux sont les protestants aussi aujourd'hui qui adoptent cette théorie-là. Protestants historiques, mais aussi de plus en plus d'évangéliques. Ou alors on est carrément amillénariste. Ça veut dire qu'on ne croit pas du tout au millénium. Et ça veut dire que l'homme va lui-même créer le millénium par le progrès. Le progrès avec un grand P. Bon, alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin de Jésus dans ça. Si. Il y a besoin de Jésus parce que Jésus a déjà vaincu toutes les puissances du mal qui s'oppose au progrès. Et par conséquent, maintenant, on peut travailler au progrès et en sachant que le progrès va réussir. Mais alors, il n'y a pas besoin des chrétiens. Les marxistes feront si bien l'affaire. Non, parce que les chrétiens vont être le moteur, parce qu'eux, ils connaissent. Ils peuvent introduire les principes spirituels et moraux du progrès. Les marxistes, eux, ils vont introduire les progrès scientifiques. Mais les chrétiens vont introduire les progrès spirituels et moraux. Ils ont du boulot à faire, remarquez bien, en ce moment, parce que, point de vue progrès moral, c'est pas tellement évident. Hein. Mais enfin, aussi aberrant que ça puisse paraître, c'est aujourd'hui la doctrine qui est proférée par de nombreux évangéliques, même dans notre pays. La faculté évangélique de Vaud, par exemple, avec son doyen, le professeur Blocher, Henri Blocher, professe ça. L'Institut biblique de Nogent aussi. L'Institut biblique d'Emmaüs en Suisse aussi. Pacht, qui en a été directeur en son temps, doit se retourner dans sa tombe. Mais on en est là. On en est là. Alors c'est une dérive extrêmement inquiétante. Car finalement, on rejoint ici les marxistes, on rejoint un évangile social, on rejoint ici, comment dirais-je, une vision d'un messianisme uniquement terrestre, socialiste, en fin de compte. Et le christianisme devient une force d'appoint du socialisme, et donc il faut un engagement sociopolitique pour pouvoir être véritablement chrétien. C'est une déviation totale de l'Évangile. Je pourrais dire que c'est même la religion de l'Antichrist, la religion du Conseil œcuménique des Églises, et en fin de compte, ce qui sera la grande prostituée. Et c'est pourquoi ici, la doctrine de la parousie est une doctrine essentielle. Car on peut en fin de compte la résumer de la manière suivante. Ce n'est pas nous, chrétiens, qui amènerons le millénium, le règne de Christ, par nos efforts. Nous ne pouvons rien, comme dit Jésus, de la même manière que le laboureur qui a semé dans son champ, qu'il veille ou qu'il dorme, ça ne changera rien du tout. Ça ne fera pas lever la semence plus vite, et ça ne la fera pas non plus lever moins vite. Qu'il veille ou qu'il dorme, ça ne change rien. En son temps, ça apparaîtra, ça germera. Mais alors, c'est démobilisateur ? Non ! Parce que ce que nous avons à faire, c'est d'être des témoins de cette réalité-là, des signes de ceux qui déjà vivent des réalités spirituelles du royaume. Et c'est toute la dimension des béatitudes. Le royaume des cieux s'est approché. Et les violents, ceux qui ont usé de violence, peuvent déjà entrer dans ce royaume, peuvent déjà vivre ici-bas les signes de ce royaume. Et c'est finalement ce qu'en tant que chrétiens, nous avons à être.